Chapitre 2.
Comme il allait saisir la poignée de la porte, Winston remarqua qu'il avait laissé son journal ouvert sur la table. « Abba, Big Brother » était écrit partout, en lettres si grosses qu'on pouvait les lire de l'autre bout de la pièce. C'était un acte d'une stupidité inconcevable. Mais, réalisa-t-il dans sa panique même, il n'avait pas voulu barbouiller le papier crémeux en refermant le livre alors que l'encre n'était pas sèche. Il prit une inspiration et ouvrit la porte. Aussitôt, il se sentit inondé par une chaude vague de soulagement. Une femme sans couleur, à l'air brisé, avec des cheveux filasses et un visage ridé, se tenait à l'extérieur. « Oh, camarade !» commença-t-elle d'une voix maussade et plaintive. « J'ai bien cru vous entendre rentrer. Pensez-vous que vous pourriez venir jeter un œil à notre évier? Il s'est bouché et... » C'était Mrs. Parson, la femme d'un voisin de palier. « Mrs. » était un mot désapprouvé par le parti. Vous étiez censé appeler tout le monde camarade, mais on l'employait instinctivement en s'adressant à certaines femmes. C'était une femme d'environ 30 ans, mais qui en paraissait beaucoup plus. On aurait dit qu'il y avait de la poussière dans les plis de son visage. Winston la suivit dans le couloir. Ses petits travaux de bricolage amateur étaient un sujet d'irritation presque quotidien. Les maisons de la Victoire étaient de vieux bâtiments, qui dataient des années 30, et qui tombaient en ruine. Le plâtre s'écaillait continuellement des plafonds et des murs, les tuyaux éclataient à chaque coup de froid, le toit fuyait dès qu'il y avait de la neige, le chauffage central fonctionnait le plus souvent à mi-régime quand il n'était pas tout simplement coupé pour faire des économies. Les réparations, en dehors de celles que vous pouviez faire vous-même, devaient être autorisées par des comités éloignés, capables de faire traîner même l'envoi d'une vitre pendant 2 ans.
« Bien sûr, c'est seulement parce que Tom n'est pas à la maison, » dit Mrs. Parsons confusément.
L'appartement des Parsons était plus grand que celui de Winston, et il s'était défraîchi différemment. Tout avait l'air cabossé et piétiné, comme si l'endroit avait été récemment visité par quelque énorme animal sauvage. Des équipements sportifs jonchaient le sol, crosses de hockey, gants de boxe, un ballon de football éclaté, un short plein de sueur dont on voyait l'envers, et la table était tapissée de vaisselle sale et de cahiers d'exercice cornés. Sur les murs se trouvaient les drapeaux rouges de la Ligue de la Jeunesse et des Espions, ainsi qu'un poster grandeur nature de Big Brother. L'odeur habituelle de choux bouillis, commune à tout l'immeuble, s'enrichissait ici de la puanteur d'une sueur qui, comme on le sentait à la première inspiration, bien qu'il soit difficile de dire comment, émanait d'une personne actuellement absente. Dans une autre pièce, quelqu'un, à l'aide d'un instrument bricolé avec un peigne et un morceau de papier toilette, essayait de jouer à l'unisson de la musique militaire qui continuait de se déverser de l'écrantelle.
« C'est les enfants !» dit Mrs. Parsons, lançant un regard un peu anxieux du côté de la porte. « Ils étaient dehors aujourd'hui, et bien sûr !»
C'était une habitude chez elle que de s'interrompre au milieu de ses phrases. L'évier de la cuisine était plein, presque à ras-bord, d'une eau fétide et verdâtre qui sentait intensément le chou. Winston s'agenouilla et examina le coude du tuyau. Il avait horreur de travailler de ses mains, et il avait horreur de se pencher, parce que cela le faisait régulièrement tousser. Mrs. Parsons regardait ce qu'il faisait sans se montrer d'aucune utilité.
« Oh, bien sûr, si Tom était là, il aurait remis ça d'aplomb en un rien de temps, » dit-elle. « Il adore ça. Il est tellement habile de ses mains, Tom. »
Parsons était le collègue de Winston, au ministère de la Vérité. C'était un homme gras, mais actif, d'une stupidité stupéfiante, une vraie masse d'enthousiasmes imbéciles, l'un de ces tâcherons dévoués qui ne remettent rien en question et sur lesquels, bien plus que sur la police de la pensée, reposait la stabilité du parti. À 35 ans, il venait juste d'être évincé, bien involontairement, de la Ligue de la Jeunesse, et avant ce reclassement, il avait réussi à demeurer chez les espions 1 an au-delà de l'âge statutaire. Au ministère, il était employé à un poste subalterne, pour lequel aucune intelligence n'était requise, mais d'un autre côté, il était une personnalité très en vue du comité des sports, et d'ailleurs de tous les autres comités,
impliqués dans l'organisation de randonnées collectives, de manifestations spontanées, de campagnes de levée de fonds et de toute autre activité volontaire, quelle qu'elle soit. Il vous expliquait, avec une calme fierté, entre deux bouffées de sa pipe, qu'il avait fait une apparition au centre communautaire chaque soir depuis 4 ans. Une odeur de sueur envahissante, sorte de témoignage inconscient du caractère laborieux de son existence, le suivait partout où il allait et restait même dans les lieux qu'il venait de quitter.
« Auriez-vous une clé anglaise ?»
demanda Winston, aux prises avec un boulon sur le coude du tuyau. « Une clé anglaise ?» répéta Mrs. Parsons, qui venait de se transformer en invertébrée. « Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Peut-être les enfants... » Il y eut un martèlement de bottes et un nouveau souffle dans le peigne lorsque les enfants chargèrent dans le salon. Mrs. Parsons amena la clé anglaise. Winston vida l'eau et, avec dégoût, retira le caillot de cheveux humains qui bouchait le tuyau. Il se nettoya les doigts comme il le put à l'eau froide qui coulait du robinet et revint dans l'autre pièce.
« Oh, les mains !»
hurla une voix sauvage. Une jolie petite brute de 9 ans avait surgi de sous la table et le menaçait avec un pistolet automatique factice, tandis que sa petite sœur, plus jeune de 2 ans environ, imitait son geste avec un morceau de bois. Tous deux étaient vêtus du short bleu, de la chemise grise et du foulard rouge, qui constituait l'uniforme des espions. Winston leva les mains au-dessus de sa tête, mais avec un sentiment de malaise, car le comportement du garçon était si vicieux qu'il ne pouvait s'agir tout à fait d'un jeu.
« Vous êtes un traître !»
criait l'enfant.
« Vous êtes un criminel de la pensée ! Vous êtes un espion eurasien ! Je vais vous descendre ! Je vais vous vaporiser ! Je vais vous envoyer aux mines de sel !»
Tout à coup, ils furent deux à sauter autour de lui, criant « Traître !» et « Criminel de la pensée !» La petite fille imitant chaque mouvement de son frère. C'était légèrement effrayant, un peu comme de voir gambader des petits tigres sur le point de devenir des mangeurs d'hommes. Il y avait une sorte de férocité calculatrice dans l'œil du garçon, un désir évident de frapper Winston, et la conscience d'être presque assez grand pour le faire. « C'est une vraie chance qu'il ne tint pas un vrai pistolet, » songea Winston. Les yeux de Mrs. Parsons allaient nerveusement de Winston aux enfants, puis revenaient à Winston. Dans la lumière plus crue du living room, il remarqua qu'il y avait véritablement de la poussière dans les plis de son visage. « Ils sont tellement bruyants, » dit-elle. « Ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas pu aller voir la pendaison, c'est pour ça. Je suis trop occupée pour les emmener, et Tom ne rentrera pas du travail à temps. »«
Pourquoi on ne peut pas voir la pendaison ?»
gronda le garçon de sa grosse voix. « Je veux voir la pendaison ! Je veux voir la pendaison !» scanda la petite fille, gabriolant toujours autour de lui. Des prisonniers eurasiens, coupables de crimes de guerre, devait être pendu au parc ce soir-là, se souvint Winston. Cela arrivait environ une fois par mois, et c'était un spectacle populaire. Les enfants réclamaient toujours d'y être emmenés. Il prit congé de Mrs. Parsons et se dirigea vers la porte, mais il n'avait pas descendu 6 marches de l'escalier que quelque chose heurtait très douloureusement sa nuque. C'était comme si un tuyau brûlant l'avait fouetté. Il fit volte-face juste à temps, pour voir Mrs. Parsons qui faisait rentrer son fils dans le vestibule, tandis que le garçon rangeait un lance-pierre dans sa poche.
« Goldstein !»
mugit le garçon tandis que la porte se refermait sur lui. Ce qui frappa le plus Winston, cependant, fut l'air de terreur impuissante sur le visage gris de la femme. De retour chez lui, il traversa rapidement le champ de l'écrantelle et se rassit à sa table en continuant à se frotter la nuque. La musique de l'écrantelle avait cessé. À la place, une voix militaire heurtée lisait, avec un appétit brutal, une description de l'armement de la nouvelle forteresse flottante qui venait de mouiller entre l'Islande et les îles Féroé. « Avec ses enfants, pensa-t-il, cette misérable femme doit vivre une vie de terreur. Encore 1 an, peut-être 2, et il la surveillerait nuit et jour à la recherche de symptômes de dissidence. Quasiment tous les enfants, aujourd'hui, étaient horribles. Le pire dans tout cela était que des organisations telles que les espions les transformaient systématiquement en petits sauvages ingouvernables et pourtant ne produisaient en eux aucune tendance rebelle à l'encontre du parti. Au contraire, ils adoraient le parti et tout ce qui s'y rapportait. Les chansons, les processions, les bannières, les randonnées, les exercices avec les fusils factices, les hurlements des slogans, l'autorité de Big Brother, tout cela relevait d'une sorte de jeu glorieux pour eux. Toute leur agressivité était tournée vers l'extérieur, contre les ennemis de l'État, contre les étrangers, les traîtres, les saboteurs, les criminels de la pensée. Il était presque normal, passé 30 ans, d'avoir peur de ses propres enfants. Et à juste titre, car il se passait rarement une semaine sans que le Times ne fasse paraître un entrefilet décrivant comment une petite fouine, enfant héros était le terme habituellement employé, avait espionné ses parents, surpris des propos compromettants et les avait dénoncés à la police de la pensée. La piqûre du projectile du lance-pierre s'était estompée. Il saisit son stylo à contre-cœur, se demandant s'il trouverait quelque chose à ajouter dans son journal, et soudain, il repensa à O'Brien. Des années auparavant, combien de temps cela faisait-il? Sans doute 7 ans. Il avait rêvé qu'il marchait à travers une pièce plongée dans la pénombre. Et quelqu'un, assis à côté de lui, avait dit, tandis qu'il passait,
« Nous nous retrouverons là où il n'y a pas de ténèbres. »
Cela avait été dit très calmement, presque avec désinvolture. C'était une constatation et non un ordre. Il avait continué à marcher, sans s'arrêter. Le plus étrange était que sur le moment, dans le rêve, les mots ne lui avaient pas fait une forte impression. C'était seulement plus tard, et progressivement, qu'ils avaient semblé se charger de sens. Il ne pouvait pas se rappeler aujourd'hui si cela avait été avant ou après avoir fait ce rêve qu'il avait vu O'Brien pour la première fois, ni quand il avait pour la première fois identifié cette voix du rêve comme celle d'O'Brien. Mais quoi qu'il en soit, ce lien était établi. C'était O'Brien qui s'était adressé à lui dans la pénombre. Winston n'avait jamais réussi à savoir avec certitude, même après avoir croisé son regard ce matin, il était toujours impossible de le dire, si O'Brien était un ami ou un ennemi. Et cela ne paraissait pas d'une grande importance. Ils étaient liés par une entente qui dépassait l'affection ou le positionnement partisan.
« Nous nous retrouverons là où il n'y a pas de ténèbres »,
avait-il dit. Winston ne savait pas ce que cela voulait dire. Il savait seulement que d'une manière ou d'une autre, cela se réaliserait. La voix de l'écrantelle s'arrêta. Un son de trompette clair et beau flotta dans l'air stagnant. Puis la voix reprit, grinçante.
« Attention, votre attention s'il vous plaît. Une nouvelle nous arrive à l'instant du front de Malabar. » Nos forces dans l'Inde du Sud viennent de remporter une glorieuse victoire. Il m'est permis de vous dire que cet exploit d'aujourd'hui pourrait bien nous permettre d'entrevoir le bout de cette guerre. Voici les dernières dépêches.
Ça sent les mauvaises nouvelles, pensa Winston. Et, de fait, après une description sanglante de l'annihilation de l'armée eurasienne à grand renfort de personnages extraordinaires tués ou faits prisonniers, on en vint à annoncer que la ration de chocolat passerait la semaine prochaine de 30 à 20 grammes. Winston éructa à nouveau. Le jean cessait de faire effet, lui laissant l'impression d'être dégonflé. L'écrantelle, peut-être pour célébrer la victoire, peut-être pour effacer le souvenir du chocolat perdu, bascula sur « Océanie, c'est pour toi » que vous étiez censé écouter debout. Cependant, dans la position où il se trouvait, Winston était invisible. « Océanie, c'est pour toi » céda le pas à une musique plus légère, et Winston traversa la pièce en direction de la fenêtre, en tournant le dos à l'écrantelle. Le jour était toujours clair et froid. Quelque part, dans la distance, une roquette explosa avec un rugissement sourd qui se répercuta. Il tombait sur Londres, en ce moment, une 20aine ou une 30aine de bombes par semaine. En bas, dans la rue, le vent faisait claquer la fiche déchirée de ci de là, et le mot « Sosang » apparaissait et disparaissait par intermittence. Les principes sacrés du Sosang, 9 langues, pensée double, immutabilité du passé. Il avait l'impression de parcourir les forêts du fond des mers, perdu dans un monde monstrueux, où il se trouvait lui-même être un monstre. Il était seul, le passé était mort, le futur était inimaginable. Quelle assurance pouvait-il avoir que, ne serait-ce qu'une seule créature actuellement en vie, était de son côté? Et comment croire que la mainmise du parti ne durerait pas pour toujours? Comme une réponse, les 3 slogans inscrits sur la façade blanche du ministère de la Vérité lui revinrent.
« La guerre, c'est la paix. La liberté est un esclavage.
L'ignorance est une force. »
Il sortit une pièce de 25 cents de sa poche. Ici aussi, dans un lettrage minuscule et précis, les mêmes slogans étaient inscrits, avec sur l'autre face la tête de Big Brother. Les yeux vous poursuivaient, même depuis la pièce. Sur les pièces, les timbres, les couvertures des livres, les bannières, les posters, et sur l'emballage des paquets de cigarettes, partout. Toujours les yeux vous regardaient, et la voix vous enveloppait. Que vous soyez endormi ou réveillé, occupé à travailler ou à manger, à l'intérieur ou à l'extérieur, dans votre baignoire, dans votre lit, il n'y avait pas d'échappatoire. Rien ne vous appartenait, à part les quelques centimètres cubes de l'intérieur de votre crâne. Le soleil avait tourné, et la multitude de fenêtres du ministère de la Vérité, qui était maintenant dans l'ombre, avait pris une allure aussi sinistre que les meurtrières d'une forteresse. Le cœur de Winston trembla devant l'énorme forme pyramidale. Elle était trop puissante pour être balayée. Un millier de bombes ne la battrait pas. Il se demanda à nouveau pour qui il écrivait son journal. Pour le futur, pour le passé, pour un âge qui était peut-être imaginaire. Devant lui, ce n'était pas la mort qui menaçait, mais l'annihilation. Le journal serait réduit en cendres, et lui-même en vapeur. Seule la police de la pensée lirait ce qu'il avait écrit, avant d'effacer ses mots de l'existence comme de la mémoire. Comment faire appel au futur, quand pas une trace de vous, pas même un mot anonyme, griffonné sur un bout de papier, ne pouvait physiquement subsister? L'écran-tel sonna 14:00. Il devait partir dans 10 minutes pour être de retour au travail à 14:30. Curieusement, le carillon de l'heure semblait lui avoir rendu un peu de courage. Il était un fantôme solitaire, énonçant une vérité que personne n'entendrait jamais. Mais, tant qu'il pouvait la prononcer, d'une certaine façon, obscurément, la continuité n'était pas brisée. Ce n'était pas en étant entendu, mais en restant sain d'esprit, qu'on pouvait porter l'héritage humain. Il revint à la table, trempa sa plume, et écrivit.
« Au futur ou au passé, à un temps où la pensée est libre, où les hommes sont différents les uns des autres et ne vivent pas seuls, à un temps où la vérité existe et où tout ce qui est fait ne peut être défait, de la part d'un âge d'uniformité, d'un âge de solitude, de la part de l'âge de Big Brother et de la pensée double, salutations. »
Il était déjà mort, pensa-t-il. Il lui semblait que c'était seulement maintenant, en commençant à formuler ses pensées, qu'il avait franchi le Rubicon. Les conséquences de chaque acte étaient inscrites à l'intérieur même de l'acte. Il nota
« Le crime de pensée n'entraîne pas la mort. Le crime de pensée est la mort. »
Maintenant qu'il se reconnaissait comme un homme mort, il devenait important de rester vivant autant que possible. Deux doigts de sa main droite étaient tachés d'encre. C'était exactement ce genre de détail qui pouvait vous trahir. Un zélateur fouineur, une femme probablement, quelqu'un comme la petite femme aux cheveux de sable ou comme la fille brune du département de la fiction, pourrait être amené à se demander pourquoi il avait écrit pendant sa pause méridienne, pourquoi il avait utilisé un stylo à l'ancienne et ce qu'il avait pu écrire. Puis il lui aurait suffi de laisser cet indice au bureau approprié. Il alla à la salle de bain et fit disparaître l'encre consciencieusement en se frottant avec le savon marron foncé qui vous râpait les mains comme du papier de verre et se trouvait donc tout à fait adapté pour cet usage. Il rangea le journal dans le tiroir. Il était bien inutile de songer à le cacher, mais il pouvait au moins s'assurer que son existence avait ou n'avait pas été découverte. Un cheveu déposé en travers des pages était trop évident. Avec le bout de son doigt, il ramassa un grain de poussière blanchâtre assez reconnaissable et le déposa sur le coin de la couverture, à un endroit d'où il tomberait si le livre était déplacé.